Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seil en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter une fois encore l'émission Des livres plein les oreilles. Alors aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'extraits de livres audio à vous faire entendre parce que vous savez que cette émission-là est directement consacrée aux livres audio. C'est la seule émission littéraire d'ailleurs qui existe au Québec, je pense même au Canada. Je me demande même si autour de la planète, on n'est pas les seuls à faire cette émission-là consacrée aux livres audio. Aujourd'hui à l'émission, je vais recevoir Stéphanie Clermont, auteure de Le jeu de la musique, qui a reçu pour cela le prix littéraire Adrienne Choquette en 2018. Il y aura une entrevue téléphonique, parce qu'il n'est pas à Montréal en ce moment, avec Yves Dutheil, autour de la foi et de l'amour. Et je vais faire un retour sur la vie et l'œuvre écrite de Madame Lise Payette. Et puis Yannick Olassa va nous présenter Clostria de Régis Geoffrey. Juste avant de me tourner vers Stéphanie Clermont, pour que nous parlions de ce recueil de nouvelles qui s'appelle « Le jeu de la musique », je voudrais vous faire entendre un petit montage que j'ai réalisé sur une musique qui justement figure dans la nouvelle, dans votre dernière nouvelle, Stéphanie, qui s'appelle « Le jeu de la musique ». Et comme le nom l'indique, il s'agit d'un jeu. Chacun y va d'une musique à faire entendre à l'autre. On aura l'occasion d'en reparler. Et entre autres, moi, il y avait celle-ci. Je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je ne connaissais pas la plupart. Ça s'appelle La Lettre. Et au départ, ça a été écrit, composé, interprété par un Russe. Donc, vous allez entendre dans ce montage ce qu'en fait ce musicien-chanteur russe-là et ce qu'en a fait Yves Desrosiers, qui l'a reprise, cette chanson-là, et qui l'a adaptée en français.
Полчаса до атаки, скоро снова под танки, снова слушать разрывов концерт, а бойцу молодому передали из дому. Большой голубой треугольный конверт.
Juste avant la bataille, juste avant la mitraille, revient le bruit des canons. Juste avant le vacarme, aux jeunes soldats en armes. Une enveloppe bleue de la maison. Cette lettre commence pardonne mon silence. J'étais las d'attendre adieu. Tout en bas de la page, je quitte le village. Bats-toi sereinement et pardonne-moi si tu peux. Seul vent balayer les fragments d'un papier bleu.
Рою, он обнялся с землею. Ветер обрывки письма разметал.
Yves Desrosiers. On l'aime. Stéphanie Clermont, bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, je suis toujours très heureuse et très émue lorsque j'accueille quelqu'un dont c'est le premier livre. Et dans votre cas, c'est réellement... Bah, c'est peut-être pas le premier, vous en avez peut-être au fond des tiroirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le premier de vous, Stéphanie Clermont, que l'on connaît. Ce n'est pas un roman, quoique. Je trouve que la frontière est mince entre un roman et cette succession de nouvelles que vous nous proposez dans Le jeu de la musique, qui porte en fait le nom d'une nouvelle, hein, qui est la toute dernière. Mmh. Vous avez reçu, je vais le dire tout de suite, le prix Adrienne Choquette. Honnêtement, Je ne connaissais pas, donc ça c'est un... Expliquez-nous un petit peu, c'est un prix qui est, en... qui est relié avec un lycée, avec un cégep, avec...
Oui, mais c'est un prix spécifiquement décerné à une œuvre de nouvelles littéraires. Oui.
Voilà.
Puis c'est toujours remis pendant le Salon du Livre de Québec.
Oui.
Puis c'est ça, c'est organisé par des représentants de Cégep. Et puis ça a été fondé par... j'oublie son nom. Je suis désolée. Mais ça fait longtemps que ça existe.
Oui. Mais ce qui est certain, c'est que donc, on salue là, non pas une première œuvre, mais... une nouvelle ou des nouvelles en tout cas. Et tout le monde s'entend pour dire, y compris notamment mon amie que j'adore, Claudia, qui a parlé de votre livre comme d'une bombe mélancolique.
Claudia La Rochelle, oui.
Oui, hein, Claudia La Rochelle, qui vient d'ailleurs à l'émission assez régulièrement. Et je la remercie parce qu'honnêtement, je me demandais comment j'allais le présenter, ce livre-là, qui est un bouquin de nouvelles. C'est très troublant et c'est une magnifique écriture. On parle là, bon, on y va avec un groupe d'amis, hein, on se comprend. Ils sont tous, quoi, dans la début trentaine.
À peu près, oui.
Et il y a un élément déclencheur, un petit peu, quoique ça ne déclenche rien, on les suit simplement dans leur vie. Mais il y a la mort de Vincent, qui n'est pas une mort banale, qui est une mort par suicide. Mm-hmm. Vous auriez pu choisir un mariage, vous auriez pu choisir mm-hmm. une naissance. Vous avez choisi le suicide. Mm-hmm. Pourquoi?
Mais c'est ça, comme vous dites, ça déclenche rien dans le sens où c'est dans le livre que ça déclenche quelque chose.
C'est ça.
Donc,
ouais.
La première nouvelle, c'est ce choix-là mm-hmm. que fait Vincent de s'enlever la vie.
Ouais.
Et puis, en même temps que je décris la... Ben, en fait, on dans la première nouvelle, on connaît pas Vincent. Et puis, ce qu'on apprend de sa mort, c'est plutôt l'endroit... qu'il a choisi pour aller suicider. Et puis, on parle d'un endroit qui... C'est un terrain vague. Mm-hmm. C'est un endroit mm-hmm. qui a une certaine... qui est au milieu de la ville, mais qui n'est pas géré comme le sont les autres espaces.
Ouais, ouais,
donc, qui a quelque chose de sauvage.
Ouais.
Et puis, c'est un peu le désespoir... de la disparition des endroits comme ça, mm-hmm. libres, et puis de ce sentiment-là, de cette possibilité-là mm-hmm. d'être libre, qui est ressenti non seulement par ce personnage-là qui choisit d'en finir avec la vie, mais par tous les autres personnages qui, eux, choisissent de continuer à vivre quand même.
À vivre, mais qui sont, on le sent parfois, dans un mode de survivance.
Ouais, et puis qui comprennent ou qui
cherchent pas à comprendre pourquoi d'ailleurs. Ils savent pourquoi, c'est pas ça le thème.
C'est ça, donc qui se sentent proches de Vincent, c'est pas une surprise pour eux, c'est pas quelque chose qui vient complètement chambouler leur mm-hmm. vision de l'existence, mais ça trace quand même une sorte de ligne dans le sable où ils se disent oui, effectivement, c'est son geste est approprié, mais admettons que nous, c'est pas ce geste-là qu'on a envie de poser.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on fait alors?
Oui. Et il y a une recherche chez tous qui est la recherche d'être un bon adulte, finalement. Mais qu'est-ce qu'un mm-hmm. bon adulte? Il mm-hmm. Y a entre autres cette nouvelle qui m'a marqué peut-être plus que les autres. C'est la nouvelle qui s'appelle La Bête Noire, mm-hmm. Qui est suivie par cette inondation, par des images très fortes, un piano dans l'eau, la maman d'une des amies qui joue Chopin à ce moment-là avec l'eau qui monte. En tout cas, mm-hmm. quel imaginaire, Catherine, Stéphanie.
Du milieu, en fait.
C'est vrai?
Oui.
Oh, que c'est drôle! Il y a des fois que je me sens un peu sorcière. c'est ça, je me disais, mais quel imaginaire! Et je me disais aussi, en lisant ce bouquin, j'aurais pu le lire un petit peu comme, vous savez, comme les CD qu'on écoutait en random. Mm-hmm. Je me suis dit, est-ce que si j'avais lu le livre, genre n'importe comment, je prends une nouvelle, est-ce que vous pensez que ça aurait été différent? Je veux dire, est-ce que l'ordre dans lequel vous avez réglé tout ça, est-ce que c'est réglé comme du papier à musique, comme on dit justement, parlant de musique?
Mais l'ordre certainement a été longuement réfléchi. Et puis, c'est ça, comme on disait, il n'y a pas nécessairement de cheminement. Donc, les nouvelles ne sont pas en ordre chronologique.
Okay.
On rencontre des personnages qui ont peut-être 30 ans au début. Oui. Après ça, on comprend que tous les personnages se connaissent dans une autre histoire où, ah, là, ils ont 19 ans. Mm-hmm. Plus tard, comme vous le disiez, on est dans l'enfance. Mm-hmm. Donc, l'ordre n'est pas chronologique, mais il y a une certaine logique, oui. Beaucoup de réflexion dans l'ordre des nouvelles. Puis je pense que c'est un peu... Ça va en s'approfondissant.
Oui, oui,
comme
oui.
Les nouvelles du début sont plus... je brosse un portrait plus large de l'environnement. Il y a plus d'humour. On est dans des institutions... Oui.
Comme l'employé, par exemple.
L'employé, c'est ça. On est au travail, on est au Bureau d'emploi Québec.
Oui.
On est dans des...
Oh, là, c'est pas drôle, par contre. Hein?
C'est pas drôle. Ben, il y a des parties drôles, mais, oui, on est dans des institutions. Ouais. Puis plus ça va, plus je pense qu'on se rapproche de l'intérieur puis de l'essentiel. Mm-hmm. Mais ça veut pas dire nécessairement que c'est le cheminement des personnages dans le temps. Parce qu'il y a des moments qui viennent... presque vers la fin, qui se passe dans l'enfance.
Ouais, ouais.
Donc, dans ce sens-là, oui, l'ordre est important.
Est important.
Mais en même temps, avec mes éditeurs, on a quand même vraiment insisté pour dire que c'est un recueil de nouvelles, c'est pas un roman, parce que la forme de chaque texte a vraiment été travaillée comme une nouvelle. Oui. Donc, dans chaque histoire...
Ouais.
C'est pas des chapitres.
Il y a
une montée, il y a une chute, oui, une
exactement.
Résolution dans chaque...
Parfois longue, parfois courte d'ailleurs.
Parfois longue, parfois courte. Parfois, j'emprunte à certaines auteurs américaines. On dit nouvelles, mais on pourrait presque dire aussi que c'est des poèmes en prose.
Oui, certaines
histoires très
absolument.
Courtes.
Absolument.
Donc oui, je pense qu'on pourrait lire en ordre aléatoire, mais en retirer peut-être une autre expérience.
Et puis, il y a donc, ça se finit par le jeu de la vie, et entre autres par cette chanson « Orphan's Lament », je le prononce bien, de Robbie Bashaw.
Oui.
Et qui revient, ça revient souvent, comme là par exemple, on a le texte en français. On va se quitter dans quelques secondes, mais je voudrais qu'on l'écoute, cette chanson-là. Et est-ce que vous le saviez que votre livre avait été enregistré ici, alors par Vues et Voix, pour les personnes non-voyantes? Non.
Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, je connais la version de Charlotte Aubin, mais c'est...
Non, oui, ici, ça a été aussi enregistré, absolument.
Ah bon? OK.
Et oui, et avant de vous dire au revoir et qu'on aille écouter cette chanson-là, je voudrais qu'on en écoute un extrait.
Ah, OK.
C'est le prologue. Alors, c'est une autre voix. Et ça, c'est une version qui est absolument gratuite parce qu'elle est destinée au SQLA, le Service québécois du livre adapté, pour être emprunté par des personnes non-voyantes. Voilà.
OK, super.
Super. Merci beaucoup, Stéphanie Clermont. Merci. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles qu'il faut à tout prix lire. Si vous êtes comme moi, si vous aimez découvrir des nouveaux auteurs, eh bien, découvrez Stéphanie Clermont. Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci.
C'était un lieu vivant sans obligation ou de l'eau propre, ou qu'on aimait croire propre. Avait, on ne sait plus comment, trouvé les tuyaux et rempli d'anciens réservoirs gros comme de petites piscines creusées où des bancs de poissons rouges et blancs vivaient, mystérieusement, été après été. Pour s'y rendre, il fallait aller jusqu'au bout de la rue Ontario, puis plus loin encore, puis dépasser les tracts de chemin de fer. Les graminées sauvages dépassaient les 2 mètres. Il n'y avait de béton que quelques îlots de graffiti par ici et par là, et partout ailleurs c'était de l'herbe et des buissons coupants et ces arbres en hauteur dont les feuilles parlent fort en été. Dans les réservoirs, on se baignait, même si un été sur 2, l'eau irritait la peau. La nuit, on faisait des feux avec les branches mortes des grands arbres. Dans l'herbe longue, on s'endormait, triste et seul, ou entouré d'amis et ivre de soleil. C'était dans Hochelaga, tout au bout de la rue Ontario. Tu vois où c'est?
C'est touchant, hein, mais je peux vous dire que cette musique-là est exactement à l'image de ce livre, de ce recueil de nouvelles, Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont, que je remercie encore d'être venue jusqu'à nous. Il y a quelques semaines maintenant de cela, disparaissait Lise Payette. Lise Payette, honnêtement, depuis 5 ans que cette émission-là existe, je l'avais invitée. C'était il y a quoi, un an et demi, et on n'a jamais réussi, ça n'a pas pu se faire parce qu'elle était trop occupée. C'est fou, hein. Et donc on s'était dit, bon, alors 2018, ce sera notre année. Et malheureusement, donc, Lise Payette n'est pas venue en direct faire cette émission, mais moi j'ai décidé de lui rendre un petit hommage. On va commencer par un extrait De ce documentaire qui a été réalisé par Jean-Claude Laure, qui est basé sur des entrevues de la petite fille de Lise Payette, qui s'appelle Flavie Payette-Renouf. Ça s'appelle Lise Payette, un peu plus loin, un peu plus haut. J'ai juste fait un petit montage de quelques extraits de cet excellent documentaire-là.
Moi, je suis née dans une famille pauvre. C'est les premières images que j'ai, c'est ça. C'est la maison chez ma grand-mère qui était une maison de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Chez nous, on n'était pas croyants. On n'en parlait pas trop parce que c'était quand même assez mal vu à l'époque. Mais ma grand-mère, la chère Marie-Louise, avait décidé depuis longtemps que la religion, c'était pas pour elle.
Mais qu'est-ce qui l'avait décidé, elle?
Je pense, écoute, ma grand-mère a eu au total 9 enfants, 7 vivants. Elle est allée un jour à la confesse alors qu'elle avait essayé d'espacer ses maternités. Elle trouvait que ça allait trop vite, qu'il y en avait trop. Et on lui a refusé l'absolution en lui disant « On ne connaît pas le moyen que vous utilisez, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. » Elle a dit « Si Dieu existe, je m'arrangerai directement avec lui plus tard, mais je n'ai rien à faire avec vous. » Et ça a été terminé, réglé pour le reste de ses jours.
Est-ce que je peux fouiller dans vos poches?
Vous allez me gêner.
Elle anime alors un talk show d'une heure télédiffusé à 11h tous les soirs, 39 semaines par année, et qui réunit 1 million de téléspectateurs tous les jours. Les efforts des compétiteurs sont voués à l'échec.
Répondez-moi gentiment, là, vous avez toujours des problèmes de mémoire avec vos chansons.
Vous, avec vos questions?
Elle était effrontée. Elle avait peur de rien. Et c'est un compliment.
Là, je me sens un petit peu attaqué quand même. C'est gentil, gentil, mais...
Là, moi, j'ai pas de mérite. Les questions, je les invente au fur et à mesure. Mais vous, les chansons, c'est quand même plus...
Eh bien, des fois, les chansons, moi aussi.
Elle avait une espèce de facilité à provoquer.
Alors que des élections générales sont déclenchées, elle décide de quitter la politique.
La politique, pour moi, c'est un autre instrument. J'en avais utilisé plusieurs, la radio, la télévision, les journaux. Oui, pour moi, personnellement, oui, c'est un constat d'échec rendu là. J'ai réussi des choses. Vous ne me ferez jamais dire que je n'ai pas réussi l'assurance automobile. Après 35 ans, 2 fois devant la Cour suprême, 2 fois, ils ne peuvent pas la renvoyer. Je crois que le téléroman a été un moyen extraordinaire de faire prendre conscience aux femmes qu'il fallait qu'elle prenne des décisions pour elle dans la vie. Qu'elle ne pouvait pas se dire, à 20 ans, je me marie, puis ma vie est faite, j'ai plus rien après. Je dépends de quelqu'un d'autre. On ne dépend jamais de quelqu'un d'autre.
Écoutez, la vaisselle qu'elle avait à laver dans sa vie, elle l'a lavée. Hein?
Vous êtes en partie responsable du fait que je suis aujourd'hui première ministre du Québec.
Tu as cru en nous sur la montagne.
Plein de gens vont dire à Lise Payette qu'ils lui sont reconnaissants pour ce qu'elle a fait pour les femmes. Mais moi, Lise, je veux te dire que je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour les hommes du Québec.
Merci, Madame Payette.
Lise Payette, donc, dans la plupart de ses livres, mais pas assez malheureusement à mon goût, mais beaucoup de ses livres, devrais-je dire, se retrouvent notamment au SQLA. Il y a notamment Des femmes d'honneur, évidemment, ça c'est son autobiographie. Lise Payette qui, nous dit-on ici, tourne le regard du côté de Lise Ouimet pour mesurer le chemin parcouru par la fillette née dans le quartier Saint-Henri en 1931. Elle ressuscite une enfance éclairée par la sagesse de femmes d'honneur qui l'ont guidée toute sa vie. Sa mère, la courageuse et volontaire Cécile, et puis la mère de celle-ci, sa chère Marie-Louise, dont on l'entendait parler un petit peu plus tôt. Marie-Louise, dont les enseignements et l'humour ne cesseront d'ailleurs jamais de l'habiter. Sur le chemin du souvenir s'anime bientôt une adolescente pleine d'appétit pour la vie, puis une jeune femme que l'amour transforme en une nouvelle mariée, passionnée, en une mère de famille que 3 enfants finissent par occuper à plein temps. Et puis la Montréalaise cède aussi la place à la Parisienne, oui. C'est outre-Atlantique que se précise le projet de Lise Payette, conquérir son indépendance. La réalisation de ce rêve, l'histoire de son accomplissement avec son lot d'épreuves, de défis et de victoires, a constitué la quintessence de cette autobiographie, très sobre d'ailleurs, c'est ce qu'avaient dit à l'époque les critiques, mais sincère aussi, qui va droit au but quand il s'agit de retracer la vérité des gestes et leurs conséquences. Les femmes d'honneur, des femmes d'honneur, c'est une invitation à partager l'expérience. Tiens, j'aurais envie de peut-être de vous faire une petite citation. C'est cet extrait des femmes d'honneur du numéro 1. On n'entreprend pas, écrivait Lise Payette, de revivre sa vie impunément. On découvre vite que les peines sont toujours aussi vives, mais que les joies, elles, sont toujours aussi belles. Faire le tour de son propre jardin, c'est un défi. Alors, il y a aussi, bien sûr, des femmes d'honneur, une vie engagée. Ça, c'était le tome 2. Il y a eu un tome 3 ensuite. Donc, si vous voulez, c'était vraiment la vie familiale et puis la vie politique et sa vie également dans les médias. Il y a également un autre livre que nous avons de Madame Payette, c'est « Le mal du pays », commenté dans la revue Les Libraires par Anne-Marie Genet de la librairie Pantoute, qui écrivait depuis quelques mois « Le vent du changement social » souffle jusque sur les rayons des librairies où l'on voit apparaître de nombreux ouvrages engagés. Au milieu des polémiques et des coups de gueule, on trouve parfois des pages empreintes d'une conviction calme, sincère et profonde, comme celle du livre « Le mal du pays ». Lise Payette s'y pose en femme engagée et inspirante et nous parle du chemin parcouru pour la cause des femmes et celle du pays et du chemin qu'il reste à faire. Elle y évoque son passé et notre avenir, plus que tout. Elle démontre que le courage, l'audace et la constance des convictions ne s'effritent pas toujours avec le passage du temps et que ces vertus prouvent la réelle valeur d'un individu. Il y a également, vous en souvenez peut-être, le pouvoir connaît pas. Entre le 15 novembre 1976 et le 20 mai 1980, entre la joie et la désillusion, j'aurais cheminé, écrivait Madame Payette, tant bien que mal dans le labyrinthe du pouvoir, avec le sentiment d'y être étrangère. Lise Payette, 30 ans plus tard, ce compte-rendu émouvant et perspicace, rédigé à chaud, avec finesse et humour, c'est un livre qui reste d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un récit qui permet de prendre les dimensions du chemin parcouru ou de mesurer celui qu'il reste à accomplir, un véritable témoignage au cœur du pouvoir. Et puis, elle a écrit énormément dans Le Devoir, Madame Payette, et toutes ses chroniques, un certain nombre de ses chroniques ont été réunies dans un recueil qui s'appelle « Le sens du devoir ». Et ça aussi, ça a été enregistré par une ou un bénévole de Vues et Voix. Et vous pourrez également trouver ça au SQLA, au service québécois du livre adapté. Restez là en seconde partie, on va rejoindre Yves Duteil à Paris, avec qui je vais parler spiritualité. Yannick Olassa nous présente une chronique de livres et puis d'autres extraits de livres audio à écouter. Vous écoutez Clotilde Seille, c'est l'émission des livres pleins les oreilles à Canal M. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie, on va retrouver notamment Yannick Olassa qui va nous présenter Clostria de Régis Geoffrey, un livre absolument fascinant. Et puis, juste avant, je voudrais faire la place à Yves Duteil. Yves Duteil, pour qui la spiritualité est une aventure fondamentale au quotidien pour lui, à tel point qu'il en a écrit un livre qui s'appelle « Et si la clé était ailleurs ?» Et on va le rejoindre d'ici quelques minutes. Il est en France, bien évidemment, il n'est pas sur le territoire québécois en ce moment. Juste avant qu'on le retrouve, permettez-moi de vous faire entendre une chanson. J'ai choisi pour vous la tibétaine, parce qu'il sera certainement question du Tibet dans notre entrevue. Et puis après, juste un petit bout du prologue de « Et si la clé était ailleurs ?»
Nous vivons sous le même soleil que des êtres en tout point pareils, qui partagent leur existence entre l'espoir et la souffrance. La Tibétaine au cœur si pur qui chantait à l'ombre des murs attendra jusqu'à ses 30 ans pour revoir le soleil levant. Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde et leur chant se heurte en silence au vacarme de l'inconscience. C'est la voix d'un peuple brisé, de ces moines martyrisés qui nous offrent en un seul regard des milliers de vies de mémoire. C'était hier, c'était ailleurs, on disait plus jamais l'horreur. C'est là tout près, c'est maintenant, et je pleure pour tous ces gens. Nous gardons la blessure au cœur du chagrin des peuples qui meurent par la force ou par la violence, en perdant jusqu'à l'espérance. Cette lignée, si elle s'éteint avec le dernier Tibétain, laisserait pour l'éternité tant de portes à jamais fermées. Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde, mais leurs chants se perdent en silence au désert de l'indifférence. C'est la voix d'un peuple épuisé, de ces femmes paralysées qui revivent en un seul regard tout ce que leur cœur a pu voir. C'était hier, c'était ailleurs, on disait c'était une erreur. C'est là tout près, c'est maintenant, et je rêve pour ces enfants d'un pays libre sur la terre, à des milliers d'années-lumière de ces uniformes barbares, de la peur et du désespoir, pour revivre sous le soleil une histoire en tout point pareille, et pouvoir enfin raconter les chapitres inachevés. Il est dit que jamais la flamme de la vérité dans nos âmes ne peut s'éteindre tout à fait, et qu'elle nous éclaire en secret comme du miel sur les blessures. J'entends toujours la voix si pure de la Tibétaine chanter avec ses sœurs emprisonnées quelque part au-delà des murs. J'entends toujours la voix si pure de la Tibétaine chanter leur espoir en la liberté.
Comme la photographie conjugue la lumière avec l'ouverture et la mise au point, notre esprit capte et projette un éclairage unique. Sa profondeur de champ est liée à notre ouverture au monde et nous focalisons sur un point tout en essayant de conserver une vision d'ensemble. La spiritualité guide ma vie. Elle ajoute une dimension d'altitude qui me manque sur le papier. Et quand j'atterris à nouveau après une échappée, mon cœur a étanché sa soif de ciel et son envie d'envol, je me sens plus riche d'un espace intérieur, plus vaste de ce dépassement.
Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir si gentiment et si spontanément, pourtant à la dernière minute, répondu à mon invitation. Yves Dutheil, j'avais envie de parler avec vous de la spiritualité, parce que la spiritualité, comme on l'a entendu à l'instant, lu par un bénévole ici de Vues et Voix, elle fait partie de votre vie. Vous dites même que la spiritualité guide votre vie.
C'est vrai. Je pense qu'on en est tous un peu là, même parfois sans le savoir.
Oui.
On a tous une aspiration à l'immatériel, parce que on est tous dans un monde extrêmement matérialiste qui vit dans un tumulte en fait permanent, une espèce de déferlante d'émotions permanentes qui nous submerge. Et qui nous empêche parfois d'écouter ces petites voix intérieures qui sont si utiles pour retrouver le nord, quand parfois on l'a perdu.
Plus riche d'un espace intérieur, vous êtes, je pense, un homme, entre guillemets, comblé dans la vie, comblé en amour, comblé professionnellement. Ça fait tant d'années maintenant que vous nous régalez les oreilles, Yves Dutheil. Et parfois, j'aurais tendance à demander aux gens qui sont ainsi tellement investis par la spiritualité, est-ce que vous aviez besoin de combler autre chose ?
Oui, parce que j'ai pas toujours été aussi conscient de tout ce que j'avais, et puis j'ai traversé des périodes difficiles comme tout le monde.
Bien sûr.
Personne n'est à l'abri du deuil, de la souffrance, de la maladie, de la peur, de l'angoisse même. Et face à l'angoisse, on est très démuni parce que on a peur sans très bien savoir de quoi. Et simplement, on a une impression de peur. Et oui, j'ai eu vraiment des vides à combler. Je suis né très expansif dans une famille qui l'était beaucoup moins que moi. Donc je me suis senti un peu confiné dans mes émotions, dans mes sentiments.
Ça, c'est blessure d'enfance là que vous nous racontez là.
Oui, mais en même temps, voilà exactement, ça a donné une chanson. Mais en même temps, à un moment donné dans ma vie, j'ai pu prendre conscience de du fait que ce vide, il n'était pas si vide que ça. Et que mes parents avaient un amour immense pour nous, que mon père, qui était certainement un handicapé du sentiment, pas forcément de l'amour, parce que tout ce qu'il nous a donné, c'était quand même de l'amour.
Il faisait ce qu'il pouvait, quoi.
Il n'était pas équipé pour l'exprimer, mais tout ce qui a guidé sa vie, ça a été pour nous donner, nous ouvrir des chemins, pour nous donner des possibilités. En fait, on le réalise pas toujours sur le coup. Donc toutes ces choses que j'ai pu avoir à combler, je me suis rendu compte qu'en fait, il les avait quand même remplies.
Bien sûr.
Et je pense qu'il suffit parfois d'avoir auprès de vous quelqu'un qui vous aime pour combler beaucoup de ces vides-là.
Absolument. Et parce que l'amour, ce n'est jamais très loin de vous non plus, Yves Dutheil. Je veux dire, je voudrais juste pour les auditeurs leur dire une petite chose, parce que j'ai été particulièrement touchée quand je vous ai contacté. Vous m'avez tout de suite répondu oui. Vous avez dit oui, je sors d'une répétition, ce sera faisable. Et vous m'avez dit, je vous donne le numéro de Noël, donc qui est votre épouse. Et vous avez signé Yves et Noël, amitié. Et ça, moi, vous voyez, je suis très sensible à ça.
Mais parce que plus le temps passe et plus on forme une espèce d'entité à nous deux.
Ah oui. Hein.
Donc j'ai tendance à l'associer comme elle est associée à tout dans l'existence. On a cette chance de s'être rencontrés. Je l'exprime. Parce que je pense qu'on est tous un peu pudiques aussi de nos sentiments. Moi aussi, mais d'une certaine façon, cette relation particulière, elle fait une grande partie des sujets de mes chansons.
Oui, absolument.
À la fois, tout le monde le sait, donc tout le monde nous associe.
Bien sûr.
Et j'ai tendance à l'associer à toutes les situations. Ce partage, il est très important pour moi.
Je feuillette, je l'ai sous la main, ce livre, Et si la clé était ailleurs. Je précise pour les gens qui voudraient se le procurer sur papier que c'est sorti chez Mediapol. Mais si vous êtes aujourd'hui à mon émission, Yves Dutheil, c'est parce que maintenant ce livre a été enregistré et qu'il est disponible pour les personnes non-voyantes via un service spécialement conçu pour cela ici à Montréal. Lorsque j'ai lu ce livre, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait aussi quand même beaucoup d'humour, entre autres, ou en tout cas des petits clins d'œil, entre autres dans les titres. Par exemple, jusqu'au bouddhiste. C'est joli comme formule. Et je pense que c'est surtout très vrai. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans le bouddhisme ?
Ben, c'est le fait que d'abord, il ne s'agit pas d'une véritable religion à mes yeux, ou pas seulement. C'est surtout une science de l'esprit. Ce sont des générations, certes archaïques, certes très féodales, qui n'ont pas que des qualités, mais qui ont exploré des parties de notre esprit dont ils ont découvert peut-être certains secrets. Et donc, en fonction de ce qui leur arrive, parce qu'ils sont évidemment oppressés par la Chine et obligés de fuir, obligés d'échapper. En fait, on l'a entendu dans la chanson.
Dans la chanson, la tibétaine, bien sûr.
Ça m'a fait d'ailleurs très plaisir que vous sortiez cette chanson.
C'est vrai?
Oui, oui, parce que c'est pas une chanson très connue, mais elle est importante à mes yeux parce que elle est le fruit d'un combat. Ah. On pense souvent que la spiritualité, c'est une espèce de forme de méditation, mais c'est aussi une forme d'action.
Oui.
Et là, en l'occurrence, la tibétaine dont parle la chanson, elle existe vraiment, et je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Nawang Sangrol, et elle a été prisonnière dans les geôles de Lhasa, à Drapchi, une des pires prisons du régime chinois, et où sont enfermés beaucoup de prisonniers d'opinion tibétains. Et à force d'engagement et de courrier, et pas seulement de moi, l'époque, mais de beaucoup de personnes qui se sont liguées pour demander sa libération, elle a été libérée. Donc on peut aussi, ça peut devenir trop gênant d'avoir comme ça des gens encombrants.
C'est pas juste de la prière, c'est aussi de l'action. En fait, la spiritualité est dans tout, comme par exemple, je pense que spiritualité et création de chansons, Yves Dutheil, ça va de pair, non, ça va de soi.
Oui, alors on ne sait pas trop d'où ça vient, ça a beaucoup de points communs avec l'inspiration. Ce sont des choses qui nous sont données, mais qui montrent des profondeurs de quoi ? De nous-mêmes.
Ouais.
Et un peu comme la spiritualité nous parle sans qu'on entende vraiment sa voix, on ne sait pas trop d'où ça vient, ni où ça s'en va, mais ça nous traverse et ça nous apporte quelque chose. Comme, vous savez, un peu comme quand on est en bateau et qu'on voit la ligne d'horizon, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Exactement.
Par contre, on sait qu'on va vers un cap, on prend un cap. Ce cap, il est défini par quelque chose, par une boussole, par un sextant, par une carte. On a un objectif qui est invisible.
Ouais.
La spiritualité ressemble un peu à ça. C'est comme un horizon qui avance avec nous. Alors, on mettra forcément énormément de temps à aller derrière. Et probablement que derrière, on en découvrira un autre, puis encore un autre. Mais c'est un chemin, en fait. Et l'inspiration, la poésie, écrire des chansons, ça relève de cette même alchimie un peu mystérieuse.
Et vous écrivez au sujet de Noël, de votre amour, de très belles pages également, non seulement dans vos chansons, mais dans ce livre-là, « Et si la clé était ailleurs ». Entre autres, vous écrivez « Guidé par son regard, j'apprends à voir. Je n'étais qu'un passant, elle a fait de moi un passeur. Son cœur embrasse le monde, zoome sur les êtres et s'ouvre en perpétuel mouvement de pensée active qui compose la suite. » Et là, on y revient d'ailleurs, au-delà de l'horizon. Elle passe sa vie à craindre pour ce qu'elle aime, bienveillante et vigilante jusque dans son sommeil. Et alors, il y a cette phrase absolument sublime, elle est armée d'amour jusqu'aux dents. Oh.
Et j'ai repris cette phrase dans l'album Respect, qui vient de sortir.
Dont
une des chansons, en fait, s'appelle Armée d'amour.
Voilà.
Elle parle de cette période terrible que traversent les démocraties en ce moment avec le terrorisme. Bon, nous, on n'a pas, évidemment, la possibilité d'agir de façon armée, de façon physique, avec de la violence institutionnelle, où c'est nous qui nous défendons nous-mêmes avec des munitions, quoi. Donc, j'ai tendance à dire, oui, effectivement, on est armé de quelque chose, ni drapeau blanc, ni drapeau noir, de la musique et de l'espoir. Et j'ai vraiment écrit dans cette chanson, j'ai choisi d'être résistant, d'être armé d'amour jusqu'aux dents. Et pour moi, c'est une réalité. On n'a pas la possibilité de combattre physiquement, mais par contre, on a la possibilité de résister et de s'opposer d'une façon déterminée. Mais si on est assez nombreux, on peut espérer que le camp de la lumière l'emportera. Et est-ce qu'on a vraiment le choix ?
Exactement, Yves Dutheil, il faudrait, j'espère qu'il y en a plus qu'une poignée de gens comme vous, j'allais dire comme vous et nous, sur la Terre, parce que ça fait du bien de vous entendre. C'est un beau moment que vous nous avez offert là. Merci aussi pour ce livre, pour un autre livre également qui a été enregistré ici, pour les non-voyants à Montréal, un livre qui s'appelle « La petite musique du silence ». Si vous restez en ligne un petit peu avec nous, vous allez l'entendre lu par une autre personne. C'est un petit 30 secondes, c'est pas long. Et moi, j'ai choisi pour l'enchaîner, non pas une chanson de votre plus récent album, mais pour faire un petit clin d'œil à Noël, j'ai choisi J'attends, parce que voilà, pour moi, c'est un petit peu comme la non-demande en mariage. Bien là, c'est la redemande en mariage et je trouve ça sublime. Merci, Louis Dutheil.
Ben, je vous remercie beaucoup. Merci de votre accueil.
Merci infiniment à vous. Au revoir.
L'amour est la plus grande force de vie. Tous ceux qui en font l'expérience un jour au détour d'une épreuve douloureuse découvrent l'incroyable puissance d'un regard, la déferlante d'un geste ou d'une parole, quand vous submerge la douce lumière des mots justes. L'amour comme remède, bien sûr, ça ne suffit pas. Pourtant, le manque d'amour ressemble tant à une maladie. On respire, bien sûr, mais sans avoir l'air, on étouffe. C'est par l'amour que l'on vient au monde.
J'attends les grands sommets de la plus haute étoile, où déposer ton cœur pour le garder vivant. J'attends de traverser la vie de salle en salle, de couloir en entrée, de fauteuil en divan. J'attends de reposer sans peine et sans angoisse auprès de ton amour qui traverse les anges. J'attends de rassembler les morceaux de l'espace où nous vivrons tous deux jusqu'à la fin des temps. J'attends que l'univers se réduise à nos cœurs afin d'être à l'abri des méchants et des fous. J'attends que nos instants s'éternisent en des heures et que le fil du temps s'enroule autour de nous. J'attends que le printemps fleurisse la chaumière où je t'emmènerai passer l'éternité. J'attends que le soleil soit fait de ta lumière et qu'une nuit l'hiver se transforme en été. Tous les bruits ne soient plus que musique et le fond de la terre une source de miel. Et j'attends que jaillisse un geyser fantastique entraînant nos élans jusqu'au plus haut du ciel. C'est à toi que le monde alors ressemblera et je t'épouserai pour la seconde fois.
Bonjour Yannick Olassa.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui? J'allais dire ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais vraiment, on n'est vraiment pas le matin. Oui, vous allez bien alors. Tout est bon, la vie est bonne avec vous. Yannick, vous nous offrez aujourd'hui, vous nous proposez une lecture, pas forcément facile, mais une lecture assez incroyable.
Absolument incroyable, je vous dirais. Il s'agit de Clostria de Régis Jauffré. Régis Jauffré s'inspire souvent de faits réels pour écrire des romans, parce qu'il faut bien noter que c'est de la fiction. Il bâtit à partir d'un squelette. Et là, le squelette qu'il a pris, en fait, c'est l'affaire Fritzl. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, c'est cet Autrichien qui a séquestré sa fille dans une cave pendant 24 ans.
Hallucinant.
Et avec qui il a eu 7 enfants. Et tout ça pendant que sa femme et des locataires vivaient au-dessus.
Excusez-moi, j'étais sans voix déjà à l'époque et je le suis encore à l'évocation de cette chose.
Tout à fait. Alors, dans ce roman-là, où il y a en toile de fond, bien sûr, le mythe de l'inceste et le complexe d'Édipe, l'auteur s'est vraiment gardé de verser dans le sensationnalisme et dans les descriptions graphiques des sévices. On n'est pas là-dedans du tout. C'est plutôt l'aspect psychologique qui est présenté. Il y a beaucoup de détails sur les états d'âme, les délires, parce que oui, effectivement, c'est aliénant d'être enfermé, enchaîné dans une cave. Le quotidien, on parle aussi du quotidien du peuple de la cave, comme il l'appelle. Un quotidien où vraiment on explore là avec insistance les moments agréables, comme si Geoffrey il cherchait à prouver que la vie n'était pas si exécrable que ça dans la cave, allant jusqu'à dire que le bonheur est un réflexe de survie.
Non, mais attendez. Là, l'auteur, Geoffrey, j'ai un petit peu de mal à suivre parce que ça doit être insupportable. Alors, c'est encore plus insupportable ce que j'entends là, non?
Oui, ben en fait, ce qui arrive, c'est que, notamment, parce que le père allait passer du temps avec eux en bas, il jouait avec les enfants, il leur a même acheté une télévision. Donc, il va axer sur ces moments de bonheur auxquels, en fait, ce qu'il veut démontrer, c'est dans tous les côtés horribles, l'être humain a le réflexe de s'accrocher au positif.
OK, là, je comprends mieux. OK, excusez-moi, j'avais pas compris ça au début. Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il est en train de dire... OK. Je vous suis mieux, Yannick.
Donc, c'est vraiment cette démonstration-là qu'il veut faire pour montrer à quel point l'être humain peut parfois être fort. Dans son réflexe de survie.
C'est incroyable. Oui. Effectivement, cette femme, en plus... qui tombe enceinte à cause du fait de son père, qui en plus il lui enlève ses enfants.
Il lui en enlève trois qui vont être adoptés par la femme légale de Fritza, donc qui vont monter à l'étage. Oui, et la mère ne sait pas du tout que sa fille est séquestrée en bas. Elle pense parce que Fritza lui a fait croire qu'elle était partie dans une secte puis qu'elle abandonnait ses enfants sur le pas de la porte. Donc, c'est une ambiance glauque un peu, par moment, bien sûr, des faits, là, c'est évident. Mais je vous dirais que Geoffrey a une plume agréable quand même, qui est sensible, qui est juste. Il procède beaucoup par figure de style, par image, notamment dans la dernière moitié là, du roman. On sent comment l'aliénation s'installe progressivement. En tout cas, c'est un livre qui est touchant, qui est révoltant.
Qui est empathique.
Mais
totalement.
Qui est empathique. Il est moins au début, mais qui le devient vers la fin.
Est-ce que vous avez un petit extrait pour nous, chère Yannick?
J'ai un petit extrait. Platon, le mythe de la caverne, The Myth of the Cave. Des prisonniers qui ne verront jamais de la réalité que des ombres d'humains projetées sur la paroi de la grotte où ils sont enchaînés. Dans le souterrain, les enfants n'ont vu de l'extérieur que les images tombées du ciel qui leur parvenaient par le câble de l'antenne. Le mythe a traversé 24 siècles avant de s'incarner dans cette petite ville d'Autriche avec la complicité d'un ingénieur en béton et celle involontaire de l'Écossais John Baird qui inventa le premier téléviseur en 1926. Je me suis rendue sur les lieux fin novembre 2008, un trou gris de basse Autriche cerné par les forêts, les montagnes, un endroit comme un autre pour donner la vie et laisser se dérouler la sienne sans geindre ni pâmer. J'ai rencontré Romain à l'hôpital Mauer Amstetten, où, après avoir expulsé tous les malades, les autorités logeaient la famille souterraine afin de la protéger des journalistes et des paparazzis. Pas l'ombre d'un flic ce matin-là, les médias s'étaient lassés de faire le siège devant la forteresse.
Extrait de ce livre Claustria de Régis Geoffrey. Évidemment, c'est la même étymologie que claustrophobie, donc enfermement. Je lisais un résumé qui disait Bienvenue en enfer avec ce petit peuple de la cave. Merci beaucoup, Yannick. Je voudrais préciser que ce livre-là existe en plusieurs versions audio. Bien sûr, il existe au SQLA. Ici au Québec. Il est également disponible, et je voudrais que les auditeurs prennent ça en note, c'est important. Il existe plusieurs bibliothèques françaises, et ce sont des bibliothèques qui vous ouvrent grand leurs portes. Vous n'avez, exactement comme au SQLA, qu'à prouver en envoyant un papier que vous êtes bien en difficulté visuelle, perceptuelle. À ce moment-là, vous pourrez absolument aller chercher tous les bouquins. Ce qui est bien, c'est que là-bas, il y a beaucoup plus de nouveautés qu'ici. Et c'est accessible via aussi Daisy. Donc, c'est vraiment à portée de main. Alors, Claustria de Régis Geoffrey, en dehors du SQLA, on le trouve aussi à la BNFA, qui est la Bibliothèque numérique française accessible. Si vous faites BNFA, vous allez trouver ça. Ça a été lu par une voix humaine, avec un accent français, bien évidemment. Et il y a aussi l'association Valentin à Huy, dont je parle de plus en plus souvent à cette émission. Et là, il y a deux versions, soit une voix humaine, soit une voix de synthèse. C'est Alice, et vraiment, leur voix de synthèse est assez confondante. Merci. Alors, quatre façons d'écouter Clostria de Régis Geoffrey, qui nous était présentée aujourd'hui par Yannick Olassa. Merci Yannick.
Mira, ça me fait plaisir.
La semaine prochaine, et oui, l'émission tire déjà à sa fin, je vais recevoir notamment Marie Desjardins, auteure de Ellesmer, qui a été lue pour Audible, donc en format commercial, et pour le SQLA, bien évidemment. J'ai un petit extrait, tiens, avant de finir l'émission d'Ellesmer, de Marie Desjardins.
Cet été-là, à Port Harrison, au nord du Québec, mon frère Jess entendit un témoignage qui allait changer sa vie. Cet été-là, il devint lui-même un Inuit, l'Inuit blanc, entièrement habité d'une histoire qui n'était pas la sienne, mais qui le deviendrait. C'était ce récit que nous faisait Jess quand, pris d'une certaine générosité, il décidait de nous envoûter de ses paroles qui scelleraient notre destin. Tout allait bien, depuis des centaines d'années que nous étions là, nous ne manquions de rien. Puis un jour, il est venu. Un agent de la Gendarmerie royale du Canada.
La suite, la semaine prochaine, avec Marie Desjardins. C'est Clotilde Seille qui remercie ses invités du jour. Stéphanie Clermont, Yannick Olassa et Yves Duteil. Merci à Maurice Bolduc en régie. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.